Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les trois sagesses chinoises » de Cyril Jidé. Javari est une introduction historique et culturelle aux principaux courants qui ont façonné la Chine taoïsme, confucianisme et bouddhisme. Plutôt que de les ranger sans examen dans les catégories occidentales de religion ou de philosophie, le sinologue les présente comme des sagesses. C'est-à-dire comme des manières de comprendre le monde, de régler la conduite et de vivre en société. Le livre vise à restituer la perception chinoise de cet univers spirituel en partant autant que possible des notions et des mots chinois. Il suit une perspective chronologique, depuis des formes anciennes de chamanisme jusqu'aux expressions plus contemporaines du religieux et du politique, tout en examinant les rencontres, rivalités et influences réciproques des trois traditions, accessibles sans sacrifier la nuance. Cet essai propose moins un manuel doctrinal qu'une grille de lecture pour saisir les valeurs éthiques, les pratiques et les représentations qui structurent durablement la civilisation chinoise. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, sortir des catégories occidentales pour comprendre la notion de sagesse, le geste central du livre consiste à mettre en doute une traduction réflexe appelée religion, philosophie ou croyance des réalités chinoises qui ne coïncident pas exactement avec ces termes. Javari ne nie pas la présence de pratiques rituelles, de textes fondateurs, de figures vénérées ou de spéculations sur le monde. Il montre plutôt que ces éléments ne se répartissent pas, dans le contexte chinois, selon les séparations familières entre foi privée, doctrine métaphysique et morale sociale. Le terme de sagesse sert donc à désigner des orientations pratiques et intellectuelles qui peuvent organiser simultanément le rapport au corps, à la famille, au pouvoir, aux ancêtres et au cosmos. Cette précaution de vocabulaire est décisive pour un lectorat francophone. Elle évite de chercher, par exemple, un dieu créateur unique, une orthodoxie exclusive ou une conversion au sens chrétien là où les traditions peuvent coexister, se combiner et répondre à des usages différents. Le livre invite ainsi à considérer le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme comme des répertoires de conduite. Leur importance ne dépend pas seulement de ce que leurs adeptes déclarent croire, mais de la façon dont ils donnent forme aux relations humaines et au sentiment de participer à un ordre plus vaste. Deuxièmement, les mots chinois et les idéogrammes comme porte d'entrée vers une autre pensée, Javari accorde une place importante à la langue chinoise. Car comprendre une tradition par des équivalents européens trop rapides risque d'en modifier le sens. Les mots traduits par Dieu, esprit ou immortalité portent des réseaux de connotations qui ne recouvrent pas nécessairement les notions héritées des monothéismes ou de la philosophie occidentale. Revenir aux termes chinois ne signifie pas prétendre trouver une essence inaccessible de la Chine. Cela signifie examiner les différences de cadre avant de comparer. Le rôle attribué aux idéogrammes participe de cette démarche. Une écriture non alphabétique peut favoriser une attention particulière aux relations entre forme, image, usage et contexte, sans pour autant enfermer tous les locuteurs dans une psychologie uniforme. Cette nuance est utile, car le livre ne réduit pas la pensée chinoise à son écriture. Il utilise plutôt la langue comme instrument critique contre les faux amis culturels. Pour le lecteur, le bénéfice est méthodologique. Au lieu de demander si une notion chinoise est identique à une catégorie déjà connue, il apprend à demander quelle fonction elle remplit dans un ensemble de pratiques et de représentations. Cette discipline de lecture éclaire autant les divergences que les points de rencontre possibles entre les traditions chinoises et les interrogations universelles sur la vie bonne, la souffrance ou le gouvernement. Troisièmement, taoïsme et accord avec les transformations du monde dans le parcours proposé. Le taoïsme apparaît comme une voie attentive au mouvement du réel, aux transformations et à la circulation des forces. Les références à Laozi permettent de situer une pensée qui se méfie des rigidités excessives et des volontés de maîtrise trop affirmées. Il ne faut cependant pas ramener le taoïsme à un simple éloge vague de la nature ou de la passivité. Son intérêt réside dans une autre manière de concevoir l'efficacité, agir avec justesse, suppose de percevoir les configurations changeantes plutôt que d'imposer partout un schéma abstrait. Cette orientation concerne la conduite individuelle, mais aussi le rapport au pouvoir et aux pratiques de cultivation. Le livre replace en outre le taoïsme dans une histoire plus large, où survivent des couches anciennes de pratiques rituelles et où se développent des quêtes de longévité ou d'immortalité. Ces éléments ne doivent pas être jugés à partir d'une opposition moderne entre rationalité et superstition. Il signale des conceptions du corps, de l'énergie et de la continuité entre humain et cosmos qui ne sont pas réductibles à une doctrine unique. La présentation de Javari aide ainsi à distinguer les enseignements textuels associés au Tao des formes religieuses, rituelles et populaires du taoïsme, tout en soulignant leur communication historique. Quatrièmement, confucianisme et construction éthique des relations sociales. Le confucianisme est abordé comme une sagesse de la relation et de la responsabilité, dont les enseignements de Confucius constituent un repère majeur. Sa question directrice n'est pas seulement celle du salut individuel, mais celle de la formation humaine dans un monde de liens famille, éducation, rite, hiérarchie et exercice du gouvernement. Cette perspective explique son influence profonde sur les manières chinoises de penser la conduite juste et la légitimité politique. Le livre permet de comprendre que le rite ne se limite pas à une cérémonie figée. Il est aussi une discipline de l'attention aux situations et aux places respectives, destinée à rendre les rapports sociaux plus ordonnés et moins violents. Une telle vision peut sembler étrangère à des lecteurs attachés à une définition très individualiste de l'autonomie. Javary offre les éléments nécessaires pour la lire sans caricature. La priorité donnée au collectif ne supprime pas l'exigence de perfectionnement personnel. Elle lui donne un terrain concret. Le confucianisme ne se résume donc ni à une idéologie de soumission, ni à un code de politesse. Il articule éducation, exemplarité et sens des responsabilités. Son étude devient particulièrement éclairante pour comprendre pourquoi les questions de transmission, de respect et de gouvernement occupent une place si importante dans l'histoire intellectuelle chinoise. En dernier lieu, bouddhisme importé. Dialogue entre tradition et continuité contemporaine, le bouddhisme occupe une position particulière dans cette synthèse, puisqu'il est né en Inde avant de connaître une implantation profonde en Chine. Son inclusion parmi les trois sagesses rappelle que l'influence historique ne dépend pas de l'origine géographique. Une tradition venue d'ailleurs peut être traduite, discutée, transformée et devenir un élément durable du paysage spirituel local. Le livre suit cette histoire sur une longue durée et insiste sur le fait que taoïsme, confucianisme et bouddhisme ne doivent pas être imaginés comme trois blocs entièrement séparés. Ils ont connu des rivalités, notamment pour le prestige social et le soutien du pouvoir, mais aussi des dialogues et des emprunts. Cette dynamique aide à comprendre la pluralité chinoise mieux qu'une carte de religion concurrente. Une même personne ou une même communauté peut mobiliser plusieurs héritages selon les circonstances, en matière de morale familiale, de méditation, de rite ou de vision du monde. Javary élargit enfin le regard vers des cultes et expressions plus contemporains, y compris autour de Mao. Ce prolongement ne met pas sur le même plan des phénomènes différents. Il souligne que les formes de vénération, de mémoire collective et de légitimation symbolique continuent de travailler la Chine moderne. La longue durée historique devient ainsi un outil pour éviter de voir la Chine actuelle comme une rupture totale avec son passé. En conclusion, les trois sagesses chinoises conviendra au lecteur qui cherche une première vue d'ensemble rigoureuse sur la spiritualité et la pensée chinoise, sans se limiter à des recueils de maximes attribués à Laozi ou Confucius. Il sera également utile aux étudiants, aux voyageurs attentifs au contexte culturel chinois et aux lecteurs intéressés par les difficultés de traduction entre univers intellectuels. Son apport pratique et surtout interprétatif, il fournit des repères pour éviter de qualifier trop vite de religion, de philosophie ou de superstition des pratiques dont la logique combine souvent éthique, rite, politique, soin de soi et rapport au cosmos. Sur le plan intellectuel, il invite à comparer sans réduire une tradition à des équivalents occidentaux commodes mais trompeurs. Ce qui distingue cet ouvrage de nombreuses introductions thématiques est son choix de relier les trois courants dans une histoire longue faite de voisinage, de tensions et d'influences réciproques. Il ne traite pas le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme comme des doctrines isolées, ni comme des curiosités exotiques. La compétence sinologique de Javary, notamment son attention aux mots chinois et son travail reconnu autour du I Ching, soutient une démarche de clarification plutôt que de simplification abusive. Le format accessible ne remplace pas les études spécialisées sur chaque tradition, mais il offre une base cohérente pour les aborder. Sa valeur tient précisément à cette médiation, rendre la singularité chinoise intelligible tout en faisant apparaître les questions universelles sur la conduite, l'ordre social et la place humaine dans le monde. Si vous souhaitez soutenir Cyril J.D. Javary, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.